Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gondou. Les 5e de la classe développement durable du collège des Gondoliers arrivent sur les ondes en cette journée mondiale du climat. Maintenant, on va vous présenter 8 reportages réalisés par vous. Je laisse la parole à Gabriel, Mila et Cléa qui vont vous parler de la pollution provoquée par Internet.
À la radio,
à la télé,
dans les journaux,
vous entendez certainement de plus en plus parler de pollution. Mais les connaissez-vous réellement toutes? Aujourd'hui, nous allons vous parler du 5e plus grand pollueur au monde.
Internet.
On pourrait penser qu'Internet répond aux problèmes environnementaux. Moins de déplacements et donc moins d'émissions de CO2. Moins de papier utilisé et donc une déforestation stoppée. Mais est-ce qu'Internet est la solution pour sauver la planète?
En effet, il existe une pollution méconnue, la pollution numérique. À la différence des autres pollutions, elle est immatérielle. Sais-tu qu'en écoutant cette audio, tu pollues?
Pour que tu écoutes cette web radio, toutes tes données ont été stockées dans un immense data center. Un data center est un gigantesque entrepôt qui stocke les données du monde entier. Cet immense centre a donc besoin de beaucoup de ventilateurs afin que les milliers de disques durs ne surchauffent pas. Même dans leur construction, les data centers posent des problèmes environnementaux. En effet, pour construire ces immenses bâtiments, il faut déterrer des arbres et pour alimenter en énergie ces data centers. Il faut du pétrole, du charbon, bref, des énergies polluantes et non renouvelables.
Il existe 8,6 millions de data centers dans le monde. Rendez-vous compte de toute l'énergie nécessaire?
Autre source de pollution, regardez des vidéos sur YouTube. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Le clip Gangnam Style, 2,7 milliards de vues, aurait consommé la production d'une petite centrale électrique en un an.
Une heure de mail correspond à 40 allers-retours Paris-New York en avion.
4% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à Internet.
Mais alors, comment régler ce problème?
Naviguer sur des sites utilisant des énergies renouvelables, Yahoo, Google, Bing?
Utiliser le Bluetooth pour emmener les données dans les data centers afin de ne pas utiliser de câbles.
Changer de portable seulement lorsqu'il est cassé.
Éteindre le plus possible ses appareils.
Limiter l'envoi de mails.
Désactiver ses notifications.
Trier et supprimer les mails inutiles.
Finalement, Internet est un gros pollueur. Nous devons agir et vite.
Nous avons décidé de vous parler de l'agriculture. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Beaucoup de monde critique ce métier sans vraiment le connaître. Certains pensent encore que les agriculteurs ne s'intéressent pas à l'informatique, qu'ils polluent la terre. Nous, on va vous faire découvrir l'agriculture du 21e siècle. Dans ce reportage, Charlie va nous expliquer à quoi sert une usine de méthanisation et comment ça fonctionne. Puis Nathan s'est intéressé aux nouvelles technologies de l'agriculture. Enfin, j'ai interviewé mon frère Mathis, jeune agriculteur passionné par son métier.
La méthanisation est une nouvelle énergie produite par les agriculteurs, mais aussi une alternative au pétrole. En effet, les usines de méthanisation servent à utiliser le fumier, le lisier, les déchets alimentaires qu'elles transforment en énergie pour les voitures, pour les générateurs électriques. En Bretagne, il y a beaucoup d'exploitations agricoles, donc il y a souvent des surplus d'excréments d'animaux qui apportent des algues dangereuses pour la santé des humains et pour la santé des animaux. Eh bien, ces surplus d'excréments d'animaux pourraient être transformés en énergie pour les villes, pour les particuliers et aussi pour les voitures. Donc, on élimine les algues vertes de nos côtes et on produit de l'énergie propre. Mais contrairement au pétrole, les usines à méthanisation auront toujours de quoi être alimentées car il y aura toujours des déchets organiques. Mais une usine de méthanisation demande énormément d'argent, 2 millions d'euros, et les agriculteurs ne pourraient plus utiliser le fumier destiné à enrichir le sol. Il faudra donc trouver une solution pour à la fois produire cette énergie verte et garder de quoi enrichir le sol. Maintenant, quelle est la place de la robotique et de l'informatique dans l'agriculture? À toi, Nathan.
L'agriculture a bien changé depuis le temps de nos grands-parents. Plus besoin de forcer pour conduire les tracteurs. Les cabines sont super climatisées et bourrées d'électronique. Parmi les technologies utilisées, les tracteurs autonomes qui n'ont plus besoin de conducteurs. Il suffit juste de le programmer et il fait le travail tout seul. Pour le moment, ils ne sont pas tout à fait mis au point. Ils n'ont pas le droit de rouler sur la route. Il y a aussi les robots de traite qui servent à traire les vaches. Chaque vache est identifié par un robot qui distribue de la nourriture. Ce système évite à l'agriculteur d'être présent au moment de la traite et de faire autre chose comme s'occuper des petits veaux. Enfin, les agriculteurs auront maintenant plus besoin de se déplacer pour surveiller leurs champs de céréales et leurs troupeaux. Des développeurs travaillent sur des applications pour programmer des drones.
Et aujourd'hui, je pense que la robotique, la technologie, va prendre une part bien plus importante dans le monde agricole. On le voit déjà avec les robots, avec les drones, les tracteurs pilotés automatiquement. Et je pense que demain, la technologie, la robotique, ces technologies de précision vont nous permettre d'être encore plus fins sur les exploitations pour faire encore plus attention. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une panel d'informations sur le monde agricole, que ce soit pour les animaux ou pour les plantes. Et automatiquement, avec cette montagne de données, on va pouvoir plus précisément intervenir sur les animaux, sur les plantes, pour du coup résoudre le problème qui se pose. Et donc je pense que le métier d'agriculteur va être un métier de précision grâce à ces nouvelles technologies. On le voit déjà grâce aux drones pour faire tout ce qui est apport d'engrais sur les plantes, tout ce qui est amendement, voilà. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec ces drones-là, on va pouvoir bien précisément faire presque plante par plante pour répondre aux enjeux. Et donc, j'estime que l'agriculture de demain, ce sera une agriculture où la technologie va venir aider l'agriculteur à être plus pointilleux sur le monde agricole, à être plus précis et du coup à faire un meilleur travail, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on fait, faire beaucoup plus attention aux produits qu'on va mettre et du coup d'avoir une agriculture bien plus responsable et qui évitera du coup tout ce qui est pollution, dégradation de l'environnement.
Un agriculteur est devenu aussi pro de l'informatique et de la robotique. Maintenant, un reportage sur un jeune agriculteur super connecté, Mathis. Pour mieux nous en parler, son frère Témy, à toi Témy.
Mathis, 22 ans, depuis tout petit, il veut être agriculteur. C'est un métier qui le passionne. Il aime travailler en extérieur avec les animaux et les plantes. Ce métier lui permet de travailler dans le plaisir. C'est un ancien élève des gondoliers. Il a obtenu un bac S avec option agronomie au lycée Nature, un lycée agricole de La Roche. Puis il a fait un DU en génie biologique, une licence professionnelle et maintenant une dernière formation en apprentissage technique sur l'élevage laitier. Il est venu dans notre classe pour parler de sa passion. Il nous a parlé d'une journée s'occuper des animaux, aller dans les champs, mais aussi la gestion administration de la ferme.
On doit savoir se débrouiller en informatique si on veut pouvoir profiter pleinement de ce que nous offre l'informatique aujourd'hui dans le monde agricole, c'est-à-dire plein de choses. Il y a des logiciels pour la gestion du troupeau, il y a des logiciels pour la gestion des champs.
Ensuite, Mathis nous a parlé de la question écologique en tant qu'agriculteur.
Alors c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, on est les plus proches de la nature. Et automatiquement, s'il y a quelque chose contre la nature, on est les premiers pointés du doigt. C'est vrai. Parce qu'automatiquement, c'est nous qui pouvons dégrader l'environnement. En revanche, j'estime qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on a un petit peu fait évoluer le paysage actuel. Voilà, on entretient les haies, on entretient les cours d'eau. Et donc, j'estime qu'on fait quand même pas mal de choses pour l'environnement. Après, il est vrai qu'on peut polluer avec nos produits l'eau, le sol, les plantes. Et c'est vrai qu'on a encore des choses à faire en matière d'évolution pour l'environnement.
Pour lui, l'agriculture française est respectueuse de l'environnement. L'Europe a mis en place des normes qui obligent à faire respecter l'environnement.
L'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui a encore une marge d'erreur face à cet environnement-là et elle peut évoluer et elle devra évoluer si on veut respecter notre planète.
On remercie Mathis de nous avoir parlé de sa passion et surtout de cette nouvelle agriculture que nous avons découverte avec lui. Maintenant, je donne la parole à Elsa, Gino et Anna.
Maintenant, nous allons parler des déchets et du gaspillage alimentaire. En Vendée, 73% des déchets sont valorisés, c'est-à-dire qu'ils sont recyclés ou réutilisés. La France s'est fixée comme objectif qu'en 2020, 55% seraient valorisés, puis 65% en 2025. Le département de la Vendée est donc en avance par rapport aux objectifs nationaux. La Vendée serait même la championne du tri. Mais comment conserver cette première place? Quelles actions permettent de lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire? Reportage réalisé par Elsa, Anna et Gino pour réduire les déchets alimentaires.
Selon l'ADEM, 18 milliards de repas sont jetés chaque année en France. Chaque Français jette en moyenne 29 kg de produits alimentaires, dont 7 kg encore emballés. C'est encore trop. Au collège, les élèves de notre classe ont sensibilisé les autres élèves et les professeurs à ce problème. En effet, deux fois dans l'année, la classe développement durable triait les déchets du sol. Il y avait plusieurs bacs, un pour le pain, les entrées, les accompagnements, la viande et les desserts. Nous avons constaté que l'on jetait beaucoup de nourriture, alors nous avons mis en place des solutions. Demander moins dans l'assiette, ne pas être obligé de prendre une entrée, un plat et un dessert, ne pas être obligé de prendre de la viande.
Sinon, le collège a aussi un petit jardin et un poulailler. Les poules sont nourries avec des restes de légumes que les élèves n'ont pas mangés. Cela sert à moins jeter et à recycler. Maintenant, Anna va vous donner quelques conseils et quelques initiatives pour diminuer nos déchets.
En 2015, le doggy bag apparaît en France. Le doggy bag existe dans les restaurants, c'est obligatoire, il est dans la loi. Le principe est de mettre ce que l'on n'a pas mangé dans un sac pour le ramener chez soi, pour ne pas gaspiller la nourriture dans les restaurants. Il existe aussi des applications comme Too Good To Go. Elle sert à revendre les aliments invendus des autres commerces autour de nous à petit prix. Il y a aussi le frigo intelligent et connecté. Il sert à identifier les aliments et alerter quand les aliments vont bientôt être périmés. Maintenant, c'est au tour d'Elsa qui a fait un reportage sur Trivalis.
Je vais vous parler de deux sorties réalisées avec toute la classe. L'une à Trivalis et l'autre à Trivaland. À Trivaland, c'est un site pour les poubelles noires. Les déchets sont triés. Les déchets verts sont compostés et récupérés par les agriculteurs. Les déchets en métal sont récupérés par de gros aimants. Les autres déchets sont enfouis. Près de La Roche-sur-Yon, il y a un centre de tri. Vend des tripes pour tous les emballages qui se trouvent dans les poubelles jaunes. Les déchets sont triés. Les plastiques d'un côté, les cartons de l'autre. Ils sont mis en gros paquets pour être ensuite recyclés. Pour le verre et le papier, il faut les apporter dans des conteneurs spéciaux installés dans les communes ou les déchetteries. La Vendée est championne du tri et de lutte contre les déchets. En 2017, un habitant de Vendée a jeté 152 kg de déchets. Ce chiffre diminue chaque année. Voilà, on vous a présenté des actions qui montrent notre engagement contre le gaspillage alimentaire. Maintenant, c'est au tour de Maloya et Océane de vous donner des trucs et astuces pour lutter chez vous contre le gaspillage. À vous, Maloya et Océane.
Merci Elsa. Bonjour à tous. Nous allons vous parler d'une jeune fille qui, pour sauver la planète, utilise des moyens très simples qui, petit à petit, devraient faire partie de notre quotidien. Avec Océane, on va vous présenter une journée sans déchets. Et vous allez voir que c'est possible.
Pour commencer sa journée, cette jeune fille prend sa douche. Elle utilise du shampoing solide, car le shampoing liquide met énormément de temps à s'enlever. On y utilise donc beaucoup plus d'eau.
Ensuite, elle s'habille avec des vêtements d'occasion achetés sur internet ou dans des friperies, comme vont vous le dire Nina, Nawel et Solène. Puis, elle se maquille avec du maquillage qu'elle a fabriqué elle-même. D'ailleurs, nous allons vous donner la recette d'un rouge à lèvres. À vos crayons. Vous avez probablement déjà tous les ingrédients nécessaires chez vous. En faisant vous-même vos rouges à lèvres, vous ferez des économies et pourrez créer toute une gamme de couleurs personnalisées que vous ne verrez jamais sur une autre fille. Apprenez comment faire du rouge à lèvres avec des ingrédients naturels afin d'obtenir vos couleurs préférées.
Les ingrédients. Tout d'abord, une cuillère à café de cire d'abeille sous forme de plaque ou de boule, disponible dans un magasin de loisirs créatifs. Puis, une cuillère à café de beurre de karité qui va faciliter l'application du rouge à lèvres. Enfin, une cuillère à café d'huile d'amande ou d'olive ou de jojoba.
Une fois que vous avez les ingrédients pour la base, vous devez choisir une couleur. Il existe de nombreux produits naturels que vous pouvez utiliser pour obtenir divers tons de rouge, de rose, de brun ou d'orange. Cette recette est naturelle, les couleurs seront donc subtiles et authentiques. Pour obtenir du rouge vif, ajoutez de la poudre de betterave ou des chips de betterave broyées. Pour créer une couleur rouge-brun, utilisez de la cannelle. Mélangez le curcuma avec d'autres poudres pour apporter une nuance colorée. Ajoutez du cacao en poudre pour obtenir du brun foncé.
Ensuite, mettez tous les ingrédients choisis pour la base dans un bol résistant au micro-ondes, puis faites chauffer les ingrédients au micro-ondes par plus de 30 secondes jusqu'à ce qu'ils soient fondus. Enfin, remuez-les bien afin d'obtenir un mélange parfaitement homogène et bien lisse. Sinon, vous pouvez également faire fondre ces ingrédients au bain-marie.
Je vais vous expliquer cette technique, un peu plus longue mais plus écolo. Tout d'abord, versez environ 5 cm d'eau dans une grande casserole. Faites-la chauffer à feu vif et mettez les ingrédients dans une casserole plus petite que vous mettez dans la grande. Surtout, ne mélangez pas les ingrédients avec l'eau. Puis, faites chauffer les ingrédients en les remuant jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Ensuite, ajoutez la couleur. C'est l'étape la plus amusante. Ajoutez entre 1/8 et 1/4 de cuillère à café de la poudre naturelle que vous avez choisie. Pour obtenir une couleur plus intense, ajoutez plus de poudre. Incorporez bien celle-ci dans le mélange initial et continuez d'en ajouter petit à petit jusqu'à ce que la couleur vous convienne. Enfin, versez le mélange dans des récipients. Vous pouvez utiliser un vieux tube de rouge à lèvres ou de stick à lèvres, un petit pot à cosmétiques ou tout autre récipient avec un couvercle pour contenir le rouge à lèvres. Laissez durcir le mélange à température ambiante ou au réfrigérateur avant de l'appliquer. Et voilà, c'est prêt. Un super rouge à lèvres que personne d'autre n'aura.
La jeune fille est maintenant maquillée. Elle est prête pour sortir rejoindre ses copines. Elle prend son vélo pour aller retrouver ses amis. Aucune pollution et du sport pour être en forme. Ensuite, elle retrouve sa mère pour aller faire les courses pour toute la famille.
Pour commencer, voici quelques astuces pour les courses plus écolo. Tout d'abord, évitez le plastique. C'est très important pour éviter la pollution, notamment des océans. Voici un exemple de liste de courses. Si vous avez besoin de lait,
dans une ferme avec une bouteille en verre consignée.
Le fromage, dans la fromagerie de votre magasin, avec une boîte hermétique, utile pour certaines odeurs.
Les yaourts ne s'achètent pas, on peut les faire maison. C'est meilleur et on peut varier les parfums. Et c'est sans plastique ni colorant, mauvais pour la santé.
Ou alors, vous allez dans une ferme qui produit des yaourts et des produits laitiers avec vos pots en verre consignés. Vous souhaitez manger la viande? Allez dans une boucherie ou chez un producteur de viande. Vous favorisez les commerçants locaux et les agriculteurs de sa région. Moins de pollution sur les routes.
Pommes, poires, bananes, melons, etc. dans un sac en tissu et biodégradable. Attention, il faut tenir de la saison pour manger les fruits et légumes.
Les céréales, en vrac, dans un bocal en verre, plus d'emballage.
Pour le goûter, un petit gâteau, rien de plus simple. Allez sur internet, on peut trouver des recettes simples, rapides et originales. Les gâteaux maison, c'est sympa à faire et c'est meilleur pour la santé, car ils ont moins de calories et de colorants que les industriels.
Enfin, pour préparer un dîner maison, vous pouvez faire une omelette aux légumes. Il faut donc un jardin potager et un poulailler pour des œufs. En plus, vos boules sont de grosses mangeuses d'épluchures, de fruits et de légumes. Génial, elles vont vous aider à réduire votre poubelle. Finalement, c'est simple de réduire, voire de ne plus avoir de déchets à la maison. Et surtout, c'est aussi très bon pour votre santé. Et maintenant, je laisse la place à Nina, Nawel et Solène qui vont vous parler de la pollution des vêtements.